Visage d'église. Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.
Petits frères et petites sœurs de la création. Pour cet enregistrement, je vous propose de parler justement de ce qu'en disent Hélène et Jean Baster, expression un peu énigmatique. Je le cite. « Par leur prière et leur action, les petits frères et les petites sœurs ont à assurer le passage en Christ de toute la création pour qu'à la fin des temps, le Christ la remette tout entière entre les mains du Père. » Ce passage est tiré de un nouveau franciscanisme. Après déjà 6 émissions sur les écrits d'Hélène et Jean Baster, vous ne serez pas surpris de leur expression « petits frères et petites sœurs de la création ». Elle a plusieurs mérites, dont celui de nous donner envie d'approfondir. D'abord, le thème de la fraternité chère à notre pape, par exemple. Elle renvoie à l'histoire de l'Église depuis Jésus. Lui-même n'avait-il pas créé une fraternité avec ses disciples ? « Vous êtes tous frères et sœurs », leur avait-il dit en Matthieu chapitre 23. Puis, pendant au moins 8 siècles, un des titres de l'Église le plus employé est celui d'Église fraternité. Jésus lui-même sera nommé le Christ frère dans cette même période. Et dans le livre des Actes des Apôtres, les chrétiens se nomment frères, sous-entendu, et sœurs entre eux. Et puis, pendant plusieurs siècles, cela va disparaître. C'est au XIIe siècle que des fraternités non résidentielles vont naître, et au XIIIe, les ordres mendiants, notamment les carmes, bien sûr, les franciscains et les dominicains. Le poverello, comme on dit, le pauvre d'Assise, emploiera l'expression minores, frère mineur, pour parler de ses frères en religion. Il insistera sur la pauvreté matérielle à une époque où les grandes villes se développaient et où croissait la grande bourgeoisie. Saint François d'Assise lui-même refusait la moindre possession de biens car il savait combien l'avidité et la recherche du profit tuent la relation, tuent toute relation en son cœur même. Dans une lettre au général des franciscains, Jean Baster espérait déjà en 1985 que les disciples de Saint François, imitant l'austérité du Christ en croix et la pureté du Christ en gloire, partent sur les routes afin de libérer la terre de ce qui la défigure et l'empêche d'être un hymne de beauté. Dans sa missive, Jean regrette que le message et la mission de leur fondateur auprès de toutes les créatures n'aient pas été, à son avis, totalement vécu par ses successeurs et ses frères. Saint François, un prophète, avait anticipé le déséquilibre mortifère dans lequel l'Occident allait entrer, entre les villes et les campagnes, au niveau de leurs besoins, cela entraînant une surconsommation des biens de la nature jusqu'à sa destruction. C'est pourquoi Jean Baster le lancera à l'appel de Saint François à prendre soin de la maison commune bien au-delà des communautés franciscaines. En 2006, dans « Esquisse des petits frères et petites sœurs de la création », il écrivait « Au départ, je vois un pôle, un centre, un cœur, quelque chose de très modeste, mais de très radical. Quelques personnes ayant une vocation religieuse et souhaitant un engagement total de prière et d'action. Une petite cellule pauvre et puissante, comme un germe. Ce qui caractérise, selon saint François, ses frères, c'est l'humilité, signifiée par la pauvreté et la simplicité. » Ne rien posséder en propre pour pouvoir tout partager avec ses frères. Ce partage concernait non seulement les humains eux-mêmes, mais l'ensemble du monde créé. Considérer leurs frères et sœurs comme supérieurs à soi pour se mettre à leur service, à l'exemple du Christ au lavement des pieds. Si Jésus s'adresse dans ce geste symbolique à ses disciples, c'est sans doute qu'il y voit une vocation particulière. Pour saint François, les frères étaient mineurs parce qu'ils se mettaient au service des plus pauvres et leur lavaient les pieds. Contre son gré, au temps du poverello, il s'est agi de créer un ordre religieux. C'est peut-être pourquoi aujourd'hui Jean Baster a ressenti l'appel à une, je cite, « vocation religieuse ». Mais pas d'ordre religieux, de congrégation, de structures lourdes et contraignantes. J'insiste sur ce caractère essentiel, être d'abord un esprit avant d'être une organisation. Les mouvements spirituels ont toujours démarré comme cela, par une démarche intérieure résultant d'une conversion l'esprit commun est celui d'une famille et non d'une structure lourde qui empêcherait de répondre aux multiples appels de nos frères et sœurs aujourd'hui et de ceux d'une création en souffrance. De plus, les liens entre les petits frères et petites sœurs de la création sont essentiels. Au-delà d'un petit nombre, ils se tendent et se distendent sans cesse dans le dynamisme de la vie. Unis, les frères et sœurs forment une famille, mais la famille risque toujours de se morceler. Or, son unité est vitale pour sa survie, mais aussi pour sa fécondité. Lorsque cette unité est en danger en raison des comportements déviants de certains de ses membres, elle risque de n'être plus signe de l'action créatrice de notre Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Le fond de la révélation chrétienne est que nous avons un Père et que toute réalité divine se résume en celle d'une famille. Dire du monothéisme chrétien qu'il est trinitaire ne signifie pas autre chose que l'affirmation de cette filiation, écrit Jean dans Lettre à François. Cette famille de petits frères et petites sœurs de la création n'a d'autre source que la Sainte Trinité, révélée en Jésus le Christ par l'action de l'Esprit non seulement au cœur des croyants, mais au cœur de la création. La troisième personne de la Sainte Trinité donne la vie, présence vivifiante et créatrice, nous dit le Credo. Il est l'Esprit créateur, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. En Genèse chapitre 1, le passage biblique « Dieu dit » révèle l'action créatrice de l'Esprit Saint. Les petits frères et petites sœurs de la création sont ainsi unis par le don de l'Esprit Saint en permanence. Hélène et Jean Master s'appuient sur la grande tradition biblique initiée par saint Paul pour que l'Esprit Saint nous révèle notre filiation au Père Créateur. C'est donc l'Esprit Saint lui-même, dit saint Paul, qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8. Cette révélation qui nous est faite concerne l'ensemble de la création qui a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Romains 8. Hélène et Jean Baster, forts de ces paroles inspirées, mettent en lumière une double alliance, d'abord entre le Seigneur et sa création, mais aussi entre les créatures. Un Dieu solitaire est un Dieu mort. Pour être vivant, le vivant doit s'offrir afin de se recevoir. S'il ne se renonce pas entièrement, il se voue à l'inexistence. L'esprit qui le fait vivre, le souffle qui l'anime, c'est l'existence en communion. Lettre à François 49. Cette alliance est décrite comme un échange, une circulation de l'amour fraternel entre les créatures, à l'image de la Sainte Trinité, à laquelle la foi chrétienne adhère depuis Jésus-Christ et les premiers conciles du IVe siècle. Je vous propose maintenant une longue citation de Hélène et Jean Baster, dans Lettre à François, page 51. Elle explique bien, je trouve, comment à l'époque, et Hélène voyait la chose. La circulation indifférenciée de l'amour entre toutes les créatures est de nature divine, de la même nature que le Verbe éternel. En s'offrant perpétuellement à son Père, le Fils nous ouvre la voie au véritable amour, qui est de se donner entièrement à l'être aimé. Cet amour révèle l'amour divin du Père aimant, du Fils aimé, du Saint-Esprit amour. La relation entre les petits frères et petites sœurs de la création relève de ce même amour. En s'aimant en frères et sœurs dans le Christ frère, ils aimeront toutes les autres créatures. Et ils signifieront ainsi l'amour que le Seigneur leur porte. On peut penser que la démarche d'amour est fondée sur le même désistement, la même oblation du Créateur par rapport à la créature que du Père par rapport au Fils. C'est le corps de son Fils que le Père constitue en créant l'univers. Saint Paul ne dit pas autre chose lorsqu'il dit aux Corinthiens qu'ils sont corps du Christ, au chapitre 12, première épître. Dans le contexte de ses écrits, Hélène et Jean Baster expliquent ainsi que ce corps est de nature cosmique, ce que saint Paul appelle le plérôme dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3. Tout ce qui concerne le créé, les créatures et au milieu d'elles les humains, concerne en premier lieu le Christ, lorsque l'humanité tient son rôle de gardien du jardin d'Éden. Autrement dit, plus les relations entre les différentes créatures seront harmonieuses, harmonisées par le ministère des humains, unis dans cette tâche si noble, plus l'ensemble constitué sera signe du corps du Christ. Même si, bien sûr, cela ne peut se réaliser sans l'action bienveillante et efficiente de notre Seigneur. Dès lors, l'humanité, consciente de l'unité de l'univers, ne devrait plus agir à son égard en prédatrice, mais en gardienne. Ainsi, Hélène et Jean nous font prendre conscience de la mission de la fraternité cosmique annoncée par François. Comme le dit le livre de Jean Baster pour un nouveau franciscanisme, page 39. Cette fraternité prend son origine dans le Père créateur du ciel et de la terre, origine et destinée commune à toutes les créatures. C'est ce que sont appelés à vivre concrètement les petits frères et petites sœurs de la création. C'est leur mission première et originale qu'on pourrait résumer ainsi, du ciel à la terre et par la terre jusqu'au ciel. L'univers entier a besoin de ce véritable ministère, service du bien commun, de l'humanité à l'égard du reste de la création. J'aimerais terminer par une sorte de longue méditation de notre frère Jean. Cette fraternité s'adresserait à tout fidèle soucieux de vivre un juste rapport avec Dieu et avec la création. Elle ne se traduirait pas cependant par un comportement de restriction craintive, de privation morose, de prudence parcimonieuse, repli mesquin et égoïste tourné de surcroît vers le seul bien-être humain. Sa modération serait au service de tous et viserait à l'épanouissement de toutes les créatures, chacune selon son ordre, d'après le dessein que Dieu a chargé l'homme d'accomplir. Cette fraternité cosmique procéderait d'un égal respect pour tout ce qui sort des mains du Créateur. Elle ne souffrirait pas de porter atteinte à la dignité d'aucune créature, dans l'usage même que l'homme serait amené à en faire. Elle aurait au plus haut point le sens du partage et de l'échange avec tout ce qui existe, et même l'inévitable compétition éliminatrice ne tournerait jamais chez elle en un dédain meurtrier ou en haine assassine. Elle remettrait à l'honneur la distinction classique entre le nécessaire et le superflu, la distinction qui est la bête noire de la société de consommation actuelle. La frontière ne saurait être mieux établie que par la sobriété. Frontière fluctuant selon les époques et les conditions d'existence, mais qui exprime toujours une attitude de responsabilité, et donc la capacité de faire le tri entre le besoin véritable et la pulsion incontrôlée, qui brouille les repères, valide les caprices et asservit les instincts au lieu de les éduquer.
Visage d'Église. Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.